cœur, conscience ou pensée, même tu agis dans les corps, les vies, tu es le Tout-Puissant. Et ce matin ensemble, nous te bénissons. Nous voulons aussi partager ta parole, mais au-delà des mots, Seigneur, viens par ton esprit éclairer nos cœurs, que ta volonté soit faite dans nos vies. Et tu ne nous contrains pas, mais tu nous invites à ouvrir nos cœurs, ce que nous faisons avec foi et avec joie. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Soyez les bienvenus les uns et les autres. Je sais qu'il y a des visiteurs parmi nous, certainement, qui nous visitent, non ? Qui viennent de loin. Ouais, vous êtes loin, là. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent ? Il y en a qui viennent pas trop loin, de Toulouse, je crois, c'est ça ? Ah, vous pouvez lever la main, quand même. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas punis si vous venez de Toulouse. Ah, soyez les bienvenus. Hein ? Il y en a qui viennent de plus loin que Toulouse ? Oui, alors il y en a qui viennent de Roumanie. On est heureux de les accueillir. Même si on les connaît. Vous venez d'où ? Ah oui, Bordeaux, c'est vrai. Bordeaux. Encore ? Martigues. Ah, il y a Martigues là. Encore ? Oui, on vous connaît. Soyez toujours bienvenus, pardon. De Pau, hein ? Soyez bienvenus, frères et sœurs. Hein ? Il y en a d'autres encore ? Je sais qu'il y a des Anglais parmi nous, c'est ça ? Norvège ? Ok. Eh bien, vous ne nous avez pas amené le froid. Hein ? Fait chaud ici, mais soyez les bienvenus. Je plaisante bien sûr. On est heureux de vous accueillir les uns les autres. Peut-être qu'il y en a d'autres encore. Alors, ne me dites pas Carmo ou Albi. Oui ? Pardon ? De Colombie ? Ah, soyez les bienvenus. Voilà. Le peuple de Dieu est un peuple qui est multi-ethnique, multi-nation. Et c'est une grâce. C'est quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Plusieurs fois, en tant que pasteur ou même chrétien, vous avez entendu cette phrase, cette question, peut-être cette manière de parler qui est portée par la colère, par des frustrations. S'il y avait un Dieu bon, il n'y aurait pas tous ces malheurs, n'est-ce pas ? On ne vous l'a jamais dit, ça ? Ah si, on nous le dit, hein ? Parce qu'il y a une incompréhension, parce qu'on pense que Dieu est limité. Quand les gens disent ça, ils pensent que Dieu est théorique, pensent que Dieu n'existe pas, pensent que Dieu, finalement, c'est une invention de l'homme. Et il y a tout un tas de réponses qui sont là. C'est vrai que dans le monde, il y a de la violence. Hein, je pense que personne ne va me contredire ce matin. Il y a des morts dans des catastrophes naturelles, c'est des choses terribles, des choses qui se passent et qui se sont passées dans le temps, mais qui se multiplient encore aujourd'hui. Il y a des enfants, des bébés, des nourrissons qui meurent de faim. Il y a des épidémies qu'on ne peut pas enrayer, parfois. On en a connu, nous, en France, mais on a fait tout un tas de choses, en Europe et dans le monde, hein, avec ce Covid. On veut éviter d'y repenser de trop. Mais il y a aussi tout un tas de comportements, d'attitudes des êtres humains. Il y a le vol, le crime, le viol, toutes ces choses qui sont, je dirais, là, dans ce monde. Et alors, face à tout ça, beaucoup de gens sont comme énervés, irrités, en colère, et disent « s'il y avait un Dieu, qu'est-ce qu'il, tout cela ne se passerait pas ?» Alors ce matin, je voudrais vraiment, je crois, j'ai à cœur d'aborder ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est cette réalité de Dieu face à nos souffrances. Dieu face à nos souffrances. C'est quelque chose qui n'est pas facile à cerner dans la Bible, qui est très large, qui est, on ne pourra pas ce matin tout voir. Je ne vais pas faire une étude biblique, je voudrais juste amener quelques aspects, quelques réflexions pour vraiment nous encourager à garder la foi, à croire en Dieu, à en croire à sa puissance, à son autorité. Et si même la souffrance chemine parfois, jalonne le chemin des enfants de Dieu, ben on sait que nous, on peut lever les yeux vers le trône de la grâce pour être secouru, pour être entendu, pour être encouragé. Amen. Donc Dieu face à nos souffrances, nous, humains. Quand j'ai dit non, c'est pas nous, nos souffrances, c'est pas que nous personnellement, mais c'est l'humanité. Dieu face à nos souffrances. Je voudrais, avant de rentrer dans les textes bibliques, je voudrais dire que la souffrance est la conséquence d'événements terribles qui se sont passés dans le jardin d'Éden. On sait que par la Bible, on nous dit que à l'origine, il y a eu la chute. Adam et Ève avaient été créés libres de choisir, on le verra tout à l'heure, hein, mais ils ont préféré désobéir par plusieurs circonstances, et cette rupture a introduit le mal, et je dirais, et la douleur et la mort dans le monde. Il y a eu vraiment là quelque chose, c'est un événement tragique qui a été réalisé au travers de que Adam et Ève ont commis, mais qui aura une incidence sur toute l'humanité, de génération en génération. C'est ce que dit l'apôtre Paul au chapitre 5 des Romains. Le prophète Ésaïe va dire un verset que l'on cite souvent, mais qui est révélateur de cela. Et je vous le lis dans une version Semeur, Ésaïe 59, verset 2. Voilà, je dis à Aurélie qui traduit, je t'ai envoyé par mail le plan, hein, comme ça si tu traduis en anglais. Si tu veux, ce sera plus facile, si du moins tu le veux. Ésaïe 59, verset 2. « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » Et on voit bien que donc, la chute, ce qu'on appelle la chute, selon la Bible, a eu un impact terrible dans l'humanité. Et à partir de ce moment-là, il y a tout un tas d'événements. Donc la souffrance n'est pas issue de Dieu et de son cœur. C'est pas du tout de son fait, c'est plutôt de la conséquence de toutes ces attitudes qui ont mené la chute. Le monde même a été impacté par ce choix. La Bible dit que le monde est comme déchu. Hein. Depuis la création entière, si vous voulez, elle est marquée par le désordre et l'injustice. Il dira à la création tout entière, Romains 8, 22, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, beaucoup de personnes, quand ils disent s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas cette souffrance, mais en fait, il y a Dieu, il y a la souffrance, mais qui n'est pas issue du cœur de Dieu, mais qui est issue de l'attitude des êtres humains. Laissez-moi vous lire, peut-être on peut le lire ensemble, Genèse chapitre 3, verset 17, vous savez qu'après cette chute, après la désobéissance d'Adam et Ève, c'est quoi la chute? C'est la transgression, c'est passer à côté de ce que Dieu a voulu, c'est désobéir, c'est vraiment aller à l'encontre du dessein de Dieu. Mais comme l'homme et l'individu étaient libres de choisir, il a choisi bien sûr cette voie-là, il a mangé du fruit de l'arbre défendu, et ça a eu un impact considérable, terrible, et encore aujourd'hui, on est impacté par ces choses. Genèse 3, 17, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme, de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit, vous voyez, le monde est déchu lui-même, à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » En fait, la souffrance est issue du choix de l'homme, de l'être humain au départ. Dieu a donné aux êtres humains la liberté de choisir, ce qu'on appelle le libre arbitre. Et cela inclut la possibilité de faire le mal aussi. Et c'est ce qui s'est passé, de blesser, d'opprimer, de détruire, d'agir. Et c'est une responsabilité. Et à la différence des animaux, les êtres humains ont été créés responsables. Aujourd'hui, on trouve tout un tas d'idées pour essayer de dédouaner la responsabilité de l'individu par tout un tas de principes, de maladies, de ceci, de cela. Mais en réalité, aux yeux de Dieu, chaque être humain est responsable. Bien sûr, Dieu est juste et il connaît toutes choses. Être responsable de ses choix, c'est assumer ses choix. Souvent, en centre de vacances, en camp d'adolescent, on essaie d'encourager l'adolescent à comprendre que s'il prend telle décision, ça aura tel impact. Et on l'amène, même quand il dépasse les limites, à dire « viens ici ». Et souvent, on a fait ça, je disais par exemple, un adolescent qui faisait des choses un peu bizarres, je disais « viens ici ». Et avec l'autre animateur, je disais « si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Quel a été l'impact de ton choix, là ?»« Ah ouais, mais tu comprends ?»« Oui, non, mais je comprends, mais tu as désobéi. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Alors c'est eux-mêmes qui se punissent, entre guillemets, et qui sont même plus durs avec eux que moi je le serais avec eux. Hein. Ben bon, après je relativise. Pourquoi ? Parce qu'il faut amener l'individu, il faut que nous comprenions qu'en tant qu'être humain, on est responsable de nos choix, et on doit assumer ces choix. Bien sûr que parfois on fait des mauvais choix. Qui n'a jamais fait de mauvais choix ici ? Hein ? Ne regardez pas votre femme en disant « j'ai fait un mauvais choix, hein. Je n'ai pas de problème hein. ». Il y a deux niveaux de responsabilité. Il y a une responsabilité personnelle, hein, qui nous est propre et personnelle. Par exemple, la Bible donnera dans les 10 commandements, mais donnera d'autres commandements dans le Nouveau Testament. Quand je parle commandements, c'est des valeurs, des principes que Dieu donne pour préserver l'humanité, en fait. Il y a des gens qui pensent que si Dieu donne un commandement, c'est pour asservir l'homme. Mais c'est pas comprendre Dieu. Dieu, lui, quand il donne un commandement, c'est pour protéger l'être humain. Il donne un commandement pour le garantir une pérennité de vie, pour le protéger de choses qui viendraient encore le combler. Par exemple, il dira « tu ne commettras pas d'adultère ». Dira-t-il dans le Nouveau Testament, il répète ce qu'il est dit dans les 10 commandements d'Exode 20. Mais Jésus va dire, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ça, c'est la responsabilité personnelle de veiller à ses attitudes, à son cœur. Par exemple, il dit, tu ne commettras pas de vol. Alors plusieurs peuvent dire, moi, je n'ai pas commis de vol. Mais des fois, une fausse déclaration d'assurance, hein, entre nous, soit dit, une fraude à l'assurance, aux impôts, hein, à la sécurité sociale. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, même l'intelligence artificielle est sollicitée pour justement traquer toutes ces personnes qui sont élastiques dans les choses, vous voyez, dans les propos et dans les attitudes. Pourquoi ? Parce que là, il y a une responsabilité personnelle. Et en fait, l'être humain est créé responsable. Et mes chers amis, frères et sœurs, ne pensons jamais que, n'ayons pas la mentalité du monde de croire que finalement on subit, donc on n'est pas responsable. Non, 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 t'es responsable. Et Dieu demandera des comptes à un moment donné, non pas pour nous détruire, mais parce qu'il nous respecte notre responsabilité et notre choix. Et puis il y a des responsabilités collectives. Dans l'Ancien Testament, il y a des livres entiers de la Bible, des prophètes par exemple, je pense à Abdias. Je pense aussi, j'allais marquer un, mais vous savez, Abdias, il va parler contre la nation, les descendants d'Ésaü, hein, édomites, hein, et Dieu va inspirer le prophète Abdias pour qu'il dise des choses concernant le peuple d'Édom, qui avait eu une attitude terrible à l'égard d'Israël. On ne peut pas rentrer dans le détail, mais je vous invite à rechercher vous-même. Et il y avait un jugement lié à l'invasion de Jérusalem. En effet, Jérusalem avait été envahie, et c'est dans les années moins 840 avant Jésus-Christ, où là, ben, il y a eu tout un tas de choses qui se sont mises en route. Et Dieu va dire des choses concernant cette nation, ce peuple, cette ethnie. Il y a le livre de Nahum, par exemple, qui parle de la chute imminente de Ninive. Je vais arrêter parce qu'on pourrait faire une liste longue. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une responsabilité aussi collective. Les nations seront évaluées aussi en fonction de l'attitude qu'ils auront à l'égard d'Israël. Et ça, on le voit dans l'Ancien Testament. On le voit, par exemple, vous savez, quand le peuple d'Israël est en pérégrination, sort de l'Égypte et pendant 40 ans se trouve dans les déserts, il nous est dit qu'il y a telle nation qui n'a pas voulu leur donner de l'eau, d'autres ils sont venus, ils les ont attaqués, Amalek et sa bande, etc., etc. Et Dieu va produire des choses difficiles à leur rencontre. Non pas parce qu'il ne les aime pas, mais parce qu'ils se sont mal comportés. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des problèmes entre les nations ? Il suffit juste d'ouvrir les yeux et d'écouter seulement une fois des informations télévisées ou autres, et on s'aperçoit qu'il y a des nations en guerre, et des nations qui sont asservies, des nations qui, par exemple, vont soutenir l'Ukraine, d'autres vont soutenir la Russie, mais indirectement. Vous avez aussi l'Israël avec l'Iran, la Palestine et toutes ces choses qui font qu'il y a tout un tas de discours, des fois délétères, des fois bizarres, des fois trompeurs, des fois manipulateurs. On ne sait plus. Et on voit là l'état de l'être humain, ses responsabilités collectives. Puis il y a ces responsabilités qui ont toujours existé dans les temps. Collective, c'est, vous savez, l'asservissement des nations riches par rapport aux pauvres. On exploite les produits, on va là, dans tel pays d'Afrique, on graisse un peu la pâte et on essaie de récupérer ceci, le pétrole, etc., etc. Là où il n'y a pas trop de richesse, on n'y va jamais, c'est bizarre ça. Ça, c'est l'être humain, hein, qui préfère toujours s'enrichir au détriment d'autres, quitte à appauvrir les autres. Donc nous voyons qu'il y a vraiment une souffrance qui est due au choix de l'être humain. Ce n'est pas Dieu qui a dit de faire la guerre là, entre les nations. C'est pas Dieu qui a dit « va et pille les richesses de tel pays ». C'est pas Dieu qui va dire « ment et fait ceci ou cela ». Et il y a beaucoup d'êtres humains qui comprennent pas ça. Mais celui qui croit en la grâce de Dieu sait que c'est la nature pécheresse de l'être humain qui l'amène ainsi. Il y a d'autres, donc on a vu la souffrance comme origine, le péché, la souffrance due au choix des humains. Et quand je dis des humains, au niveau personnel, mais au niveau national ou international, et puis la souffrance qui est parfois inexplicable. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous regardez le livre de Job, on comprend, hein, on est un petit peu au chapitre 1er, entre autres, jusqu'aux 5 premiers chapitres, on comprend qu'il souffre sans cause apparente. D'ailleurs, vous avez remarqué, il ne souffre pas parce qu'il a péché. On comprend par ce récit, entre autres, par son histoire, que la souffrance n'est pas toujours une punition à cause d'un mauvais choix, d'une attitude pécheresse, d'une désobéissance. C'est pas toujours ça. Ça peut l'être, hein. Faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Ça peut l'être. La souffrance inexplicable. On pourrait dire, par exemple, quelqu'un qui naît dans ce monde avec atteint d'une ou plusieurs pathologies, d'handicap. cette chose serrée, ben moi, je ne sais jamais quoi dire, je ne dis rien. Il y a des personnes qui me disent, mais pourquoi mon enfant est né comme ça? Pourquoi telle situation? Pourquoi est-ce que ce n'est pas injuste, etc. J'ai appris ces expressions voilà, que je vais partager avec vous, vous les avez certainement déjà entendues, j'ai appris que la vie ici-bas, elle n'est pas juste. La Bible ne dit pas que la vie est juste ici-bas, parce que justement, il y a le péché. Hein. Par exemple, si vous naissez dans un pays riche ou dans un pays où il y a une famine, ce n'est pas du tout la même justice, ce n'est pas du tout la même proportion, les mêmes avantages. Si vous naissez, je ne sais pas si vous étiez né au Moyen-Âge, il y a une civilisation ou un âge que vous auriez aimé naître, dans lequel vous auriez aimé naître. Non ? Moi, quand j'étais gamin, j'aurais aimé naître à l'époque des Romains. Je ne sais pas pourquoi. Hein ? Peut-être Astérix et Obélix faisaient de l'influence. Hein ? Et vous ? Non ? Vous êtes là ? Ouais ? Bon, ça va, on continue. Pardon, alors, vous avez dit ? Quelqu'un a dit un pays ? Non ? Bon. Le pays de naissance, l'époque. Il y a des gens, ils sont orphelins, abandonnés à la naissance, sous X. Et si vous savez votre cas, il n'y a pas de jugement du tout, hein, comprenez. La vie n'est pas juste. Et puis d'autres, on est dans une famille où tout va bien, et tout se passe bien. Il y en a d'autres, ils sont en santé, ils naissent pleins de force. Le bébé, c'est un molosse. Hein, il est bâti, puis il y a l'autre qui naît avec des déficiences, ou des limites, ou des carences. Vous êtes dans une famille riche ou pauvre, et on pourrait allonger la liste. Donc la vie n'est pas juste, n'est-ce pas ? La vie ici-bas n'est pas juste. La vie ici-bas n'est pas parfaite. Pourquoi ? Parce qu'on est lié aux limites de l'être humain. Vous regardez le comportement qu'on a à l'égard les uns des autres dans l'humanité. Parce qu'il y a sa nature pécheresse qui est là, et qui le pousse à ne pas faire le bien qu'il devrait faire, et plutôt faire le mal que je ne devrais pas faire. Ça, c'est la vérité. La vie ici-bas n'est pas facile. Même si pour certains... elle est plus difficile, vous êtes d'accord avec moi. Un enfant ici en France, en Europe, est avantagé quand même par rapport à un enfant qui naît là-bas, dans un pays du tiers-monde, où c'est aujourd'hui il y a une famine terrible. C'est pas vrai ? Alors je dis pas ça pour qu'on ait peur, qu'on se lamente, mais je dis ça pour réajuster les choses et pour qu'on réfléchisse ensemble à cette réalité. Et donc la souffrance, parfois, peut être dépendante de choses qu'on ne peut pas maîtriser, qui sont inexplicables. Mais dans toutes ces choses, Dieu est souverain. Dans toutes ces choses, Dieu est au-dessus de tout. Regardez, Dieu est tout-puissant. Qu'est-ce qu'il est encore ? Éternel, on l'a chanté. Il est infini. Il est quoi ? Il est parfait, il est juste, il est saint, il est amour. Il est plein de justice, de vérité. Les mots manquent tellement c'est large. Et plusieurs l'ont dit dans leur louange, n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ouais, hein. Dieu est Dieu. Et seulement, nous, on a, là, c'est limité. Alors, on voit un petit peu, on comprend un peu, mais Dieu, lui, se révèle par son esprit dans nos cœurs et nous montre de plus en plus. Et puis, nous sommes tout le contraire. Nous ne sommes pas trop puissants. Pas du tout. Peu. Humainement, je parle, hein. Parce qu'en Jésus, il y a une position. Nous ne sommes pas éternels. C'est vrai. Mais l'éternité nous attend. Nous ne sommes pas parfaits. À part moi, mais bien sûr. Non. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas pleins d'amour. Hein, et c'est ça, ça c'est la réalité. J'aime ce passage de Job, où il est dit ceci, Dieu parle à Job et dit, « Où étais-tu quand je posais les fondations du monde ? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. As-tu un seul jour de ta vie commandé au matin et assigné sa place à l'aube ? Es-tu parvenu jusqu'aux sources qui font jaillir les mers ? Ou t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme ? Les portes de la mort ont-elles paru devant toi ? As-tu vu les accès du royaume des ombres ? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre ? Dis-le si tu le sais tout, si tu sais tout cela. Vous comprenez que Job, hein ? Pourquoi ? Parce qu'il est un être humain. Alors, il y a des souffrances qui sont inexplicables, mais Dieu est au-dessus de toutes choses. Je vais aller vers deux choses encore, et après on va bientôt arrêter. La souffrance, dans la Bible, nous est présentée aussi comme une voie qui peut nous aider à être transformés, à être... modeler, changer. Et c'est ce qu'on appelle l'épreuve. On a chanté tous ensemble des mots, il y avait le mot épreuve. Hein, et l'épreuve, elle peut être formatrice. Et on va lire ensemble dans Hébreux chapitre 12, vous voulez bien ? Hébreux chapitre 12, verset 1er. Je ne sais pas si c'est la chaleur, mais je vous trouve sage aujourd'hui. Hébreux chapitre 12, verset 1er. On va lire les 11 premiers versets. Et nous pensons à cette souffrance qui est comme aussi qui peut être un moyen que Dieu utilise pour nous transformer. Ce n'est pas que Dieu veut que nous souffrions, c'est qu'au travers de l'épreuve, Dieu peut utiliser l'épreuve pour nous transformer et nous changer. Et il dira au verset 1er, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, vous voyez là la responsabilité de chacun d'entre nous, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour eux pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, vous pouvez le souligner, moi je le soulignerai, je ne l'ai pas souligné, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Hein ? Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux révèle que Dieu se sert de la souffrance et des événements pour travailler nos cœurs, pour nous amener à plus près de lui, pour nous conduire sur le chemin, redresser peut-être notre pas, nous dire « tu te trompes là » ou « tu vas trop loin, reviens par là ». Et Dieu va se servir de ces choses. Il va se servir de la souffrance comme une discipline, une manière d'éduquer les enfants de Dieu, en fait. Hein. Il va utiliser cela. Pourquoi ? Parce que souvent, en tant qu'être humain, on est encore des grands enfants. Hein. Je sais ici qu'il y en a qui ont plus de 94 ans. 15 ans, je suis perdu. Et on est quand même des enfants. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fois où on est têtu. Hein. Je ne vais pas citer de nom, mais ça commence par Mi, ça finit par Michel, Marty. Hein. Demandez à Mijo. Michel, il va m'attendre à la sortie. Je passerai par derrière. Hein. Voilà, je sais que des fois, il veut sortir pour aller évangéliser, il fait chaud, et sa femme lui dit « n'y va pas ». Hein, je livre un secret, là. Et parce qu'il fait trop chaud, et lui, il y va quand même, en cachette. Non, pas en cachette, il y va quand même. Voilà, mais voilà, je vous bénis, hein, je ne veux pas avoir de problème. L'apôtre Pierre va dire « Voilà ce qui fait votre joie. » 1 Pierre 1,6 dans la version Semeur. « Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, et des fois les souffrances, elles découlent de ces épreuves que l'on a les uns les autres, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour ?» Le creuset, c'était l'endroit où, bien sûr, on brûlait l'or pour enlever les scories. Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Vous voyez, Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous restions dans notre état. Il va au fur et à mesure travailler nos cœurs, il va au fur et à mesure nous amener à comprendre, à réaliser, mais aussi à compter sur lui, à dire « Seigneur, change-moi ». Et que dans cette épreuve qui des fois m'accable, au lieu de regarder toujours dans les choses négatives, je veux dire « je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que toi tu as quelque chose derrière tout ça. Et je te fais confiance, et je vais résister, je vais tenir ferme pour que tu sois glorifié. » Alléluia. C'est ça que Dieu veut. Et puis, vous savez, surtout Dieu connaît notre souffrance, il considère notre souffrance, et même, il la partage. Pourquoi je dis ça ? Il y a des gens qui pensent que Dieu est sur son trône, indifférent par rapport aux êtres humains, ayant juste un regard lointain, un peu distant, pas du tout intéressé, ou un petit peu intéressé, mais à peine. C'est tout à fait le contraire. La Bible dit que Dieu est proche, que Dieu ne reste pas à distance, il n'est pas indifférent, il n'est pas incapable, il n'est pas impuissant, il ne reste pas dans une sphère lointaine. D'ailleurs, il a prouvé son amour envers nous. Comment ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est descendu de son trône et il est venu ici-bas. Il a prouvé son amour. Il est venu, lui qui était l'égal de Dieu, la Bible dit Jésus-Christ, il a abandonné tout ça pour venir dans ce monde qui savait pertinemment, pleinement corrompu. Il est venu se mettre dans la boue du péché de l'humanité. Il a pris une forme humaine. Il est resté là comme un simple homme, sans péché, lui. Et il est resté parfait dans ce qu'il était. Mais il est venu vers les êtres humains. N'a-t-il réellement pécheur enclin au mal? Enclin au mal. Nous tous, si on devait aller dans un endroit où on sait que c'est terrible, je pense qu'on mettrait beaucoup de temps avant d'y aller. Pourquoi? Parce que on préfère tourner les talons. Mais Jésus savait pertinemment qu'il venait ici-bas pour chacun d'entre nous. Heureusement qu'il a fait, n'est-ce pas? Et la Bible dira, mais le Christ est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Romains chapitre 5, verset 8, version parole vivante. Dieu nous aime. Voyez? Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que fait votre Dieu? Moi, on me l'a dit souvent. Ah, je dis, mais vous ne le savez pas. Encore, vous ne le savez pas. Alors, il me regarde, il dit, mais il est venu il y a déjà plus de 2000 ans. Là. Il est venu pour vous. Hein. Ah bon? Ben, il n'est pas mort pour rien. Alors, les gens commencent un petit peu à s'apaiser un peu ou à avoir peur. Ils se disent, celui-là va me mordre. Hein, et je ne le mords pas, mais je leur dis, ça m'énerve aussi qu'on dise ça si facilement. C'est gratuit. Mais la réalité, c'est que Jésus est venu ici-bas. Et Jésus est venu pour, justement, venir au milieu de nos souffrances. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il n'est pas venu juste pour sauver. Puis après le reste, on s'en moque. La Bible dit que Jésus est le consolateur. L'Esprit Saint, le consolateur, le paraclet. Mais il était lui aussi paraclétos en grec, hein, l'avocat, celui qui est le consolateur. Il est celui qui est plein de compassion pour chacun d'entre nous. La Bible dit qu'il est le père de toute compassion. Regardez, je vous lis ce que dit Néhémie. Il va dire ceci. Alors, c'est Néhémie chapitre 9, verset 17. Il nous dit, ils refusèrent d'obéir, ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils parlent du peuple, hein. Ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Alléluia. Voyez, nous, dans l'épreuve, on peut croire que Dieu il voit pas, on peut croire que Dieu nous abandonne, on peut croire des choses qui sont diamétralement opposées à la réalité biblique. Et ça, c'est la foi nous dit, non, ne crois pas des bêtises, crois pas ces mensonges. La foi te dit, crois ce que la Bible dit. Et qu'est-ce que la Bible dit? Tu es un Dieu prêt à pardonner. Alléluia. Et si ce matin, il y a des frères et sœurs qui sont sur un chemin qui n'est pas formidable, vous le savez, vous êtes au fond repris, vous le savez, par l'Esprit de Dieu, mais pas pour vous accuser, mais pour vous amener à vous repentir, eh bien, il veut vous pardonner. Il est plein de compassion et miséricordieux. Quelqu'un a prié, plusieurs ont prié, à certains moments, c'est un peu compliqué, mais il est plein de compassion. Alléluia. Il est miséricordieux, il va agir. Il va t'aider. Et s'il n'agit pas un instant, il va t'aider pour aller plus loin et pour continuer à croire. Il est lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. J'ai du mal à dire abandonnas pas. Hein. Il n'abandonne personne. Et hier, à la Méridienne, j'ai partagé ces réalités. Hein, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. On le retrouve dans l'Épître aux Hébreux. Il ne nous délaisse pas. Il ne nous délaisse pas, le Seigneur. Il a un regard sur vous. Des fois, on dit, ouais, moi, je suis une anonyme parmi ces milliards. Ouais, mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu, il t'a voulu à l'existence. La Bible dira, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce. Alors oui, la souffrance, on va la subir, on va l'éprouver parfois. On aura des choses qui vont nous font souffrir, peut-être courtement, d'autres fois plus durablement, mais il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Il y a un Dieu qui est plein de compassion, qui est miséricordieux. Quelqu'un a écrit, j'ai aimé cette phrase, c'est Paul Claudel, qui est né en 1894 et qui est mort en 1955, je crois. Il dit, Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. Et je trouve cette phrase tout à fait, et résume bien ce qu'on vient de partager. Il n'est pas venu supprimer la souffrance, parce qu'on aura encore des souffrances. Je ne suis pas prophète pour le dire, mais c'est facile, on le sait bien. Il n'est même pas venu l'expliquer, parce que des fois, on ne peut pas tout comprendre dans la Bible par rapport à tout ça. C'est ce qu'on appelle la théodicée, la souffrance et Dieu. Pourquoi Dieu, la souffrance, qu'est-ce qui se passe, hein, c'est la théodicée. Mais il est venu la remplir de sa présence. Et c'est ça, ce à quoi on s'accroche les uns les autres. Hein, si tu es dans la souffrance, mon frère, ma sœur, viens et cherche le Seigneur, il veut remplir ton cœur de sa présence. Il veut te donner sa pensée, il veut te donner son courage, sa force renouvelée. Beaucoup de personnes, des fois, disent « Mais moi, je ne sais pas si je vais y arriver. » Je vais dire, je réponds souvent « Oui, humainement, on ne sait jamais. Hein. Avec Dieu, on peut tout. Avec Dieu, on peut aller plus loin. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, je peux tenir ferme, même si tout me semble aller mal. Même si j'ai un diagnostic qui vient de tomber terrible. Je peux tout en Jésus-Christ. même si j'ai des nouvelles concernant ma famille qui peut être ceci, cela, Seigneur, je peux tout, je peux avoir moins déjà la paix, je peux avoir l'assurance que tu vas faire quelque chose. Je ne sais pas comment, mais je veux continuer à espérer. Je n'ai peut-être pas des choses, des bonnes nouvelles par rapport à telle, telle chose, faut-il que je lisse tout ? Mais Seigneur, je porte mes regards vers toi, j'ai foi en toi. C'est bien de chanter, c'est mieux de le croire. Et nous nous encourageons à croire cette vérité. Hein ? La Bible ne nous donne pas une réponse unique, mais elle invite à une espérance profonde. Espère contre toute espérance. Hein. Dieu ne laisse pas la souffrance sans sens ni sans issue. C'est-à-dire qu'il y aura un temps où dans le ciel, il n'y aura plus tout ça. Quand on sera en présence de Dieu, il n'y aura plus toutes ces choses, plus de souffrance, plus de pleurs, plus de maladies, plus de ceci, plus de cela. Alléluia. Mais ce n'est pas ça ici-bas. Mais Dieu est toujours le même. Okay, et on ne peut pas non plus gommer de la réalité de notre vie que notre vie va être jalonnée de souffrance parfois. Et on est dans un monde où on veut évincer du monde la mort et la souffrance. Mais nous, on n'a pas la mentalité du monde. On fait croire que dès qu'il y a un problème, ce n'est pas normal, on abandonne, on arrête. Non, c'est tout le contraire. Il y a un problème, tu persévères. Tu regardes vers le Seigneur et tu continues à avancer. Il traverse cette souffrance avec nous et promet au bout du chemin une restauration complète, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seul Dieu change le mal en bien. Seul Dieu le fait. Regardez l'histoire de Joseph et tant d'autres. Et à Dieu soit la gloire. Alors, on va courber nos fronts, on va prier. Certainement que, bien sûr, tout le monde est concerné d'une manière ou d'une autre, parce que si vous n'êtes pas en souffrance aujourd'hui, tant mieux, profitez-en. Mais vous avez été en souffrance dernièrement ou prochainement. Quoi qu'il en soit, on va se connaître, ce chemin-là. Mais le Seigneur ne change pas, lui. Il ne démissionne pas à ce moment-là. Au contraire, il est accessible. Et il veut se révéler. Nous te bénissons ensemble, Seigneur, pour ta parole qui n'est pas une parole... Qui nous caresse dans le sens du poil, qui est toujours là pour nous satisfaire. Ta parole, elle est là pour nous amener à dépendre de toi, à vivre pour toi, en toi. Et Seigneur, je te prie pour tous les bien-aimés qui traversent des temps un peu peut-être douloureux, difficiles, des temps de souffrance particuliers. Mais nous savons que tu es le Dieu, tu restes toujours même le même à ta place, tout puissant. Mais tu es ce Dieu aussi qui est compatissant, qui est glorieux, qui sait parler à nos cœurs. Toi seul peux rassurer dans des moments d'épreuve. Toi seul peux donner à celui qui, dans des moments les plus compliqués, une force renouvelée, parce que tu es le Dieu de la vie. Alors je te prie également de bénir ceux qui sont malades dans leur corps. Nous te connaissons comme celui qui guérit. Et nous croyons que tu guéris maintenant les frères et sœurs qui sont éprouvés. Je pense à mon frère Alain pour ses yeux, son œil. Je pense à tous ceux qui sont éprouvés dans leur santé. Nous te prions de les bénir au nom de Jésus-Christ, de les guérir. Nous proclamons ta victoire sur les vies, mais également ceux qui sont peut-être dans le désarroi, dans le découragement le plus complet, le Dieu de la vie. Et ta parole dit qu'on reprend courage en s'appuyant sur toi. Alors nous appuyons sur toi ce matin. Et nous ne voulons pas laisser le découragement détruire la foi, mais nous voulons plutôt un renouveau de foi pour que le découragement soit banni et que toute la gloire t'en revienne. Merci pour ce que tu fais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà mes chers amis, frères et sœurs.